Écho d'économie.
Une autre opportunité pour aider les entrepreneurs congolais à booster ou à matérialiser leurs projets. La société belge d'investissement apporte un appui financier et technique aux Congolais porteurs des projets. Plus de détails dans cette émission. Le commerce des fruits, un marché en plein essor qui ravit les papilles de Calémien. Reportage de Paula Munanga à suivre dans ce magazine. Bienvenue à tous. C'est parti. Le concours des plans d'affaires COPA du projet Transform, lancé officiellement ce vendredi à Goma, alors que la soumission des candidatures sur la plateforme digitale sera ouverte le 4 novembre prochain. Le lancement a eu lieu en présence des autorités provinciales, des représentants des partenaires ainsi que de certains entrepreneurs. Ce projet vise à subventionner les PME établies et de nouvelles entreprises pour leur croissance. Au cours de cette cérémonie, le membre de l'équipe de Transform, antenne du Nord Kivu, ont expliqué les critères d'éligibilité et les étapes de ce projet qui va s'étaler sur 3 ans. Et sur le terrain, les entrepreneurs se préparent pour formaliser leur dossier. Signalons que ce projet sera mis en œuvre par un consortium de 3 firmes, notamment Deloitte, IEF Entrepreneuriat et Kivu Entrepreneur. Une autre nouvelle réjouissante pour les porteurs des projets, les créateurs d'entreprises congolais en recherche de financement peuvent obtenir un soutien financier éventuel de la société belge d'investissement pour le pays en développement. Celle-ci apporte un soutien financier aux porteurs des projets en manque des moyens. Les détails avec Emmanuel Elamijoua Kabedi.
L'appui de la société belge d'investissement pour les pays en développement s'articule sur 4 domaines, à savoir infrastructures, institutions financières, sociétés et fonds d'investissement ainsi que les entreprises. Les investissements peuvent être réalisés en monnaie locale, ce qui élimine les risques liés aux fluctuations des taux de change pour les entreprises clientes. La demande doit être accompagnée d'un plan d'affaires comprenant une description du concept d'entreprise, une présentation des produits, des clients, des concurrents, des fournisseurs et de l'équipe de direction, un plan d'investissement et un plan de financement préliminaire, ainsi que la prévision de rentabilité. Et pour les entreprises existantes, il faut présenter l'historique financier sur au moins 3 ans. Signalons que la Société belge d'investissement pour les pays en développement aide les entreprises à prospérer tout en introduisant des normes environnementales, sociales et de gouvernance qui attirent des sources d'investissement supplémentaires. Cette société belge ne finance aucune activité ni production ou commerce impliquant le travail forcé ou travail des enfants, les activités ou matériels jugés illégaux en vertu des lois ou règlements du pays hôte, pas même des substances appauvrissant la couche d'ozone ou les méthodes de pêche non durables.
En Ituri, une 10aine de boutiques et des maisons de commerce ont été cambriolées par des bandits armés en l'espace d'un mois dans la commune rurale de Mungwalu, située dans le territoire de Djougou. Les sources locales rapportent que les malfrats sont souvent habillés en tenues similaires à celles des militaires. Les opérateurs économiques estiment à plus de 10 000 dollars américains la valeur de biens déjà pillés. La Fédération locale des entreprises du Congo FEC tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à protéger la population locale. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les cas de vol à main armée sont devenus récurrents ces derniers temps dans plusieurs quartiers de la commune rurale de Mungwalu, située à 85 km de la ville de Bunia. Selon des sources locales, il ne se passe pas un jour sans qu'un opérateur économique ne soit visité par des bandits. C'est notamment le cas dans l'agglomération d'Enzebi, à Chouni 1 et au quartier Dépôt, où des nombreux commerçants ont déjà perdu leurs biens. Des hommes en uniforme munis d'armes à feu ou d'armes blanches forcent les portes des boutiques et s'emparent des biens après avoir tiré des coups de feu. Dernier cas, selon les témoignages, est survenu il y a 2 semaines en Zébi, où 6 boutiques ont été pillées et d'autres vandalisées par des assaillants, provoquant une psychose dans la région. Azarias Kakoulé, premier vice-président de la Fédération locale des entreprises du Congo FEC, déclare que 9 commerçants ont déjà perdu la vie dans ces circonstances.
C'est une grosse somme d'argent qui est déjà partie comme ça. À un endroit, on avait emporté 25 millions de francs congolais, à un autre endroit, 11 millions. Nous serons obligés de quitter cet endroit. Nous demandons aux autorités d'intervenir pour que les opérateurs économiques ne soient pas découragés.
Des acteurs de la société civile locale demandent ainsi aux autorités de la province de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la zone pour sécuriser la population.
Dans la ville de Kalemi, le commerce de fruits est très florissant. La plupart des fruits qui inondent le marché local sont importés d'autres pays, mais une autre quantité des fruits qui est insuffisante émane de la production locale. Que pourrait faire l'État congolais pour encourager le commerce transfrontalier des fruits à Kalemi? C'est un reportage de Paul Amunanga.
À Kalemi, il y a abondance de fruits tropicaux sur les marchés locaux qui proviennent principalement de la Tanzanie à travers les ports de Kigoma jusqu'au port de Kalemi. Il s'agit de l'ananas, l'orange, les citrons, la pastèque, la banane. Quant à la pomme, un fruit des régions tempérées, il provient de l'Afrique du Sud par route en passant par les ports de Dar es Salaam en Tanzanie. De là, les commerçants achètent et amènent jusqu'à Kalemi. Pour le président de la FEC dans la province du Tanganyika, ses longs parcours et d'autres frais qui entrent en compte expliquent les prix élevés de ces fruits sur les marchés locaux. Jules Moulia.
La pomme est très chère à cause de tout ce parcours qu'elle doit faire pour venir d'Afrique du Sud et un peu aussi au Zimbabwe. Même les fruits tropicaux en fait. Il y a par exemple le problème de la manutention. Tout ça est fait manuellement et il y a un coût.
Et concernant les fruits qui sont produits localement, il y a des difficultés qui ne facilitent pas leur commercialisation. Le président provincial de la FEC note qu'il y a une bonne quantité de fruits qui proviennent d'Uvira dans le sud Kivu, comme les avocats et les oranges, et qui atteignent Kalemi par bateau. Il y a aussi des fruits qui émanent de la périphérie de Kalemi, mais qui sont en quantité limitée. C'est en l'occurrence la mangue, la banane ou la papaye. Ces femmes trouvées au marché Monusco, à côté de l'ancien quartier général de la Monusco à Kalemi, s'expriment sur la manière dont elles font les commerces de fruits. Nous achetons par exemple 4 ou 5 avocats à 5 000 francs congolais et nous revendons en détail un avocat à 1 500 francs ou 2 000 francs congolais. Les difficultés que nous éprouvons, c'est les frais de transport qui sont élevés et la multiplicité des taxes. Je vends les fruits depuis 2011 ici au niveau de l'endroit dénommé Monusco. Tous mes enfants sont scolarisés grâce à cette activité et la vie continue de cette façon. J'achète les fruits au port. Pour le président provincial de la FEC du Tanganyika, l'État congolais pourrait encourager le commerce transfrontalier des fruits en minimisant les frais douaniers et autres taxes dans ce secteur. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Écho d'économie. À qui appartient réellement la mine de Namoya Mining? En tout cas, cette question suscite encore des débats. Vous avez suivi dans notre édition de mardi dernier le président de Chomka, une holding de Namoya Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Banoro Congo Mining s'exprimer sur la paternité de cette mine. Aujourd'hui, c'est la société Strategos Mining qui donne sa version. Écoutez Manda Monkosi-Pierre, directeur des ressources humaines de Strategos Mining, dans cet entretien qu'il a accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Manda Monkosi-Pierre, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Vous venez répliquer au propos de Chomka par rapport à l'appartenance de la mine de Namoya Mining. Vos Strategos, qu'est-ce que vous dites?
Namoya Mining appartient bel et bien à Strategos parce que c'est Strategos qui détient tous les titres de propriété qui ont été cédé par Banro après une transaction de vente qui a commencé en juin 2021 pour se clôturer en janvier 2023.
Qu'est-ce qui affirme et qui rassure que cette mine vous appartient, étant donné que selon Chomka, l'affaire en justice est déjà close?
L'affaire n'est pas close parce que Monsieur Chomari a obtenu frauduleusement des modifications des actes de société, notamment les RCCM au guichet unique. Et le directeur du guichet unique a fait un contrôle a posteriori. Il a découvert des incohérences, des irrégularités et il a invité Chomka à fournir des justifications et des pièces probantes, des pièces plausibles dans les 48 heures. Ce que Chomka n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas ces pièces plausibles. Donc le guichet unique se doit de retirer les actes qu'il a eu à poser parce que le directeur général lui-même a dit que dans les 48 heures, si vous ne m'apportez pas les pièces justificatives, je me dois malheureusement de retirer les actes que mon service a posés.
Avez-vous des preuves de vos propos là, étant donné que Chomka nous a confirmé que si cette affaire, le journal officiel a même déjà publié ça?
Nous avons des preuves. et je peux vous remettre la lettre du guichet unique. La publication au journal officiel, c'est un acte subséquent à une décision. Donc, mais si l'auteur de l'acte qui est le guichet unique retire cet acte, il va rendre une autre décision et cette décision, nous allons la faire publier également au journal officiel et tout sera rétabli dans l'ordre.
Aujourd'hui encore, Stratégos confirme que cette mine vous appartient et il y a longtemps, ça fait déjà plus de 3 ans que vous êtes là, mais vous ne travaillez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que vous avez signé des cahiers des charges, d'où la population dit que vous ne faites rien depuis la signature de ces cahiers des charges.
Nous comprenons le désarroi de la population, le désarroi des travailleurs, mais ce n'est pas depuis 3 ans que nous avons acquis la mine. Comme je vous ai dit, nous avons acquis en janvier 2023. C'est là que nous avons terminé la transaction d'achat. Et aussitôt terminé, nous avons commencé avec des problèmes juridiques, avec des imposteurs comme l'entreprise Chomka qui sont arrivés. Et là, l'actionnariat, tout investisseur qui ne veut pas que son argent soit jeté dans l'eau, devient réticent quand il y a des problèmes judiciaires. Alors, dès que ces problèmes judiciaires vont être levés, et ça va être fait très bientôt, l'actionnariat va mettre les moyens qu'il faut et le plan de relance va être déroulé. Nous avons dit c'est à l'horizon 2025, donc à partir de janvier 2025, la population va voir des signaux forts qui commenceront notamment par la réhabilitation de la route, parce que la route est cruciale, et la réhabilitation de l'usine, parce que nous avons déjà fait l'assessment sur le coût de réhabilitation de cette usine.
Alors pourquoi les agents continuent jusqu'à aujourd'hui à réclamer leur salaire?
Ce n'est pas tous les agents qui sont sur la mine, parce que la mine n'est pas opérationnelle. Namoya Mining, c'est 500 agents.
Alors, face à cet imbroglio, quel message que vous avez à cette population qui vous écoute, surtout de Salamabila?
La population de Salamabila doit retenir que Stratégos reste demeure l'unique propriétaire, l'unique acquéreur de la mine de Namoya, de la société Namoya Mining, et doit avoir confiance en Stratégos pour la relance de la mine. Il y a eu quelques écueils suite aux problèmes juridiques, mais comme les problèmes juridiques sont en phase terminale parce que nous sommes à la fin, nous allons dérouler notre plan de relance et tout va retourner dans l'ordre.
Messieurs Manda Mukonsi Pierre, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence.
Fin de ce numéro d'Écho d'économie. Paul Badianyama et Diedoné Nyangasa étaient à la prise de son. Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.